Bien, il est l'heure, s'il vous plaît. Il y a toujours des confusions dans les transmissions, des pataquès et des malentendus, qui fait que l'ordre que j'avais prévu des choses a été bouleversé, donc je n'arriverai certainement pas, puisque je cause aujourd'hui, à la place d'une personne, mais la responsabilité est entièrement mienne, à respecter mon rêve de parité. Ce sera juste une avancée dans ce domaine. Du coup, aussi, l'ordre des prochains séminaires peut être éventuellement bougé. Donc, pour l'instant, l'horizon des deux prochains séminaires est sûr. Le reste est encore un peu nébuleux. Donc, la semaine prochaine, nous aurons Madame Mercedes Volet qui parlera des politiques patrimoniales en Égypte. Et la semaine suivante, Madame Hélène Salon qui devrait parler de la situation actuelle en Irak. Alors, pour moi, l'intérêt d'un séminaire, c'est de faire travailler les autres à ma place, mais donc là, je suis évidemment coincé. Plus sérieusement, depuis longtemps, je suis amené à m'interroger sur les mots, les concepts que je suis amené à utiliser de façon courante dans mon travail, ce qui m'a conduit à faire toute une série d'enquêtes historiques sur le sens des mots. J'ai donc fait jadis, par exemple, quelque chose sur le terrorisme dans cette maison avec Madame Delmas Marty. Le livre existe à CNRS Édition. J'ai fait quelque chose sur l'impérialisme qui était paru au Seuil, l'Empire et ses ennemis. J'ai fait des articles non publiés, je le reconnais, sur la notion de génocide. Donc aujourd'hui, je vais aborder un terme, enfin même deux en fait, parce qu'ils sont toujours mis en face à face en quelque sorte. C'est celui de barbare ou de barbarie et de civilisation. Encore une fois, une enquête historique qui me permet aussi de me replonger dans mes vieux vices, de se plonger en particulier dans la littérature des Lumières. Ce que faut dire pour expliquer à ceux qui connaissent, c'est là où j'ai commencé. C'est-à-dire, mon premier vrai travail avait été une thèse de troisième cycle sur l'orientalisme des Lumières. Et donc, je suis amené régulièrement à revenir sur ces périodes fascinantes. En tout cas, pour ce qui nous intéresse plus directement maintenant, c'est de partir d'une réflexion sur la barbarie qui était celle de Claude Lévi-Strauss, illustre personnalité de cette maison, qui remontait à 1952 dans un petit opuscule qui s'appelait « Race et histoire » et qui était publié dans le cadre de l'UNESCO. Et dans ma génération, en tout cas, de lycéens et d'étudiants, « Race et histoire » de Lévi-Strauss, c'était une lecture imposée, en particulier, je crois, au moment des classes de terminale. Et dans ce texte, Lévi-Strauss avait une célèbre phrase « Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. » Chez les autres en général, évidemment. Alors, on comprend bien, c'était un texte publié au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment où le mouvement de décolonisation s'amorçait. Alors, dans ce livre, Lévi-Strauss partait du fait qu'il existe bien des différences somatiques évidentes, comme la couleur de peau, par exemple, mais que si on oppose les races humaines au sens biologique du terme, on ne compte que quelques unités, tandis que les cultures humaines se comptent par milliers. Bon, ça, évidemment, c'est avant les projets de la biologie contemporaine qui rendent les choses de la notion de race beaucoup plus compliquées qu'au début des années 50. Mais surtout, il montre que deux cultures appartenant à une même race peuvent être beaucoup plus différentes que deux cultures appartenant à des races différentes. Donc le facteur somatique n'était pas pertinent. Et ensuite, Lévi-Strauss rejetait plus exactement une notion temporelle qui était qu'il y avait un schéma évolutionniste de l'histoire humaine exprimé en termes de progrès. Alors, vous le savez tous, la notion de barbare, bon, elle vient des Grecs. Le barbare était au départ une onomatopée censée représenter la façon dont le nom grec parlait. Et donc, le barbare, c'est le contraire de l'hellénophone, de celui qui parle le grec. Compte tenu qu'il faut se rappeler que dans l'Antiquité classique, les esclaves étaient majoritairement des Grecs, d'autres Grecs, évidemment. Donc, la grande période, évidemment, c'est Hérodote, les guerres médiques, les Perses sont les barbares par excellence, à la fois parce qu'ils sont une menace, mais aussi parce qu'on leur donne des qualités dépréciatives comme la mollesse et l'inorganisation. Et surtout, ils ne sont pas des gens libres puisqu'ils sont sujets d'un despote. Donc on a chez ces auteurs grecs l'opposition entre la liberté et le despotisme. Notons tout de suite, pour régler la question, c'est que nous avons, enfin, la culture occidentale depuis quelques siècles a abusivement donné aux Perses et aux discours de l'Antiquité le qualificatif d'oriental. Le mot oriental n'existe pas dans la pensée antique. Juste à la fin, quand l'Empire romain se divise en deux parties, il y a une partie occidentale et une partie orientale, à partir du IVe, enfin à partir de Constantin. Mais la notion d'Orient, donc de faire des guerres médiques, une lutte entre l'Orient et l'Occident, est un non-sens, puisque ces termes n'existent pas dans la pensée antique. Et très vite, Hérodote lui-même peut dire, peut être aussi posé non seulement comme le père du mensonge, comme on l'a dit, puisque le père de l'histoire, le père du mensonge, mais aussi du père du relativisme culturel, puisqu'il dit que chaque peuple étant fidèle à ses propres coutumes et considère celles des autres comme des aberrations. Donc on peut se dire déjà par rapport à Lévi-Strauss que si de traiter les autres de barbares est habituel, le relativisme est aussi ancien que la qualification de barbarie. Et en fait, un certain nombre de philosophes grecs ou de penseurs grecs ont rejeté assez vite la notion de barbarie, surtout à partir des conquêtes d'Alexandre. Quand la Grèce, l'hellénisme, cesse d'être enfermé dans la petite cité grecque pour s'étendre de grands royaumes allant jusqu'à l'Afghanistan actuel, vous avez des cités grecques en Afghanistan d'aujourd'hui, il est évident que cette notion de barbare se dissout. Les penseurs grecs se rendent compte, par exemple, qu'il peut y avoir des philosophes non grecs, qu'il peut y avoir ce qu'on a appelé plus tard des sagesses barbares. C'est la rencontre avec ce que les auteurs grecs appellent les gymnosophistes, les penseurs nus, qui sont tout simplement les fakirs de l'Inde, mais qui sont considérés comme des philosophes, puisque je rappelle, pour l'Antiquité, un philosophe, c'est pas un professeur de philosophie dans une université, c'est quelqu'un qui pratique un certain genre de vie plutôt austère. Et donc, tout ce qui est austère est plus ou moins philosophique pour les anciens. En tout cas, ce qui est certain pour l'Antiquité, c'est que des notions qui ne sont pas tellement habituelles comme à ce qu'on pourrait appeler un patriotisme linguistique ou une identité fondée sur des caractéristiques linguistiques n'existent pas. Ce qui explique, par exemple, pourquoi le gaulois disparaît. Pourquoi l'hébreu cesse d'être parlé pour être remplacé par l'araméen. Et ainsi de suite. Les notions de patriotisme linguistique sont des notions absentes de la pensée et de la pratique de l'Antiquité. Et vous savez tous que l'Empire romain n'est qu'une fédération de cités, et que le but ultime, c'est la disparition des différences de qualité des individus libres, ce qui conduit au fameux édit de Caracalla de 212, où tous les hommes libres de l'Empire deviennent citoyens. Alors, on a bien eu, évidemment, dans l'Antiquité, un seul cas qui est d'une extrême complexité de résistance culturelle, c'est le monde juif. Avec les révoltes juives, la question de l'hellénisation et toute une école historique, disons de Renan jusqu'à Pierre Vidal-Naquet, avait défini la question juive, entre guillemets, dans l'Antiquité romaine, grecque et romaine, comme étant une affaire d'acculturation et de résistance à l'acculturation. Ce qui est clair, ce qui est le ciment de la romanité et de l'hellénisme, parce que c'est la même chose en un sens, c'est ce qu'on appelle la paideia, ce qui a donné un autre vocabulaire, la pédie, l'hypnopédie, l'encyclopédie, etc., c'est-à-dire l'éducation, la paideia. Et toute personne qui accède à la paideia, donc évidemment les couches supérieures de la société, devient en quelque sorte citoyen de Rome et de l'univers. Donc c'est le ciment de la société antique, c'est ceux qui participent à même hellénisme, ce qui est à la fois une culture physique, les arts physiques, la lutte, le char, le marathon, pas le marathon, c'était le lancement de javelot, donc les activités du stade en quelque sorte, et de l'autre côté les activités intellectuelles qui étaient définies dans le cadre, d'ailleurs en général c'était des esclaves qui étaient des enseignants et ça s'appelait des pédagogues. Donc, il faut rappeler que l'enseignement a des racines serviles, mais passons sur ce détail. Alors, si donc à l'intérieur de l'Empire, les différences s'atténuent progressivement, c'est de toute façon que l'Empire romain se situe dans un œcumène méditerranéen qui vivait déjà antérieurement à l'époque romaine, comme une sorte d'unité culturelle. Donc c'est dans le sens d'une évolution normale de quelque chose qui est préexisté à Rome, mais qui, bon, quand les Césars arrivent en Gaule, ça fait 150 ans que des Romains sillonnent la Gaule et vendent du vin. On s'en rend compte parfaitement aujourd'hui. Alors, pour terminer avec Rome, il faut bien comprendre que c'est une illusion historique des auteurs du XIXe siècle qui ont inventé un concept qui n'a jamais existé, qui était dans l'Antiquité, qui c'était les Gallo-Romains. Il n'y a jamais eu de Gallo-Romains. Il y a eu des Romains. À Nîmes, à Lutèce ou à Lyon, à l'époque romaine, les gens se définissaient comme Romains et pas comme Gallo-Romains. C'était une production de du XIXe siècle que ce concept de gallo-romain, de même qu'il n'y avait pas d'Africain romain, ou ainsi de suite. La seule différence linguistique qui existait à Rome, c'était entre les Grecs et les latins. Ça, oui, ça existait, mais c'est la chose. Mais il y avait aussi un autre problème avec la barbarie qui est arrivé justement à cause des Gaulois. Les sociétés de la Méditerranée ont été traumatisées par l'arrivée, par les invasions gauloises du IIIe siècle. Vous savez, ils ont pris Rome, ils ont pris Delphes, ils ont massacré les gens, et ainsi de suite. Et ils sont allés, comme vous le savez, jusqu'en Anatolie, puisque les Galates, c'est les Gaulois d'Anatolie. Et donc, cette violence des invasions gauloises a marqué durablement les esprits antiques et a fait que la violence a été assimilée à une qualité spécifique, la barbarie. Et la notion d'acte de barbarie date de l'époque des invasions gauloises, ensuite renouvelée dans le rapport avec les Germains, et qui peut trouver évidemment son ultime incarnation dans un personnage comme celui d'Attila, le fléau des dieux, au 5e siècle. Donc là, nous avons quelque chose qui est différent. Ce n'est pas le barbare qui commet de la barbarie, ce n'est pas le barbare au sens d'Hérodote. Le barbare d'Hérodote, il est mou. Il s'étend dans son jardin et il regarde les choses passer. Ça a donné naissance à une notion de barbarie qui existe toujours en droit. En tout cas, dans le droit français, je vous rappelle que la définition dans le droit français est la suivante. Le crime d'acte de barbarie suppose la démonstration d'un élément matériel consistant dans la commission d'un ou plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle qui dépasse de simples violences et occasionne à la victime une douleur ou une souffrance aiguë et d'un élément moral consistant dans la volonté de nier en la victime la dignité de la personne humaine. Donc la barbarie dans ce sens-là, c'est à la fois la violence physique et l'atteinte à la dignité de la personne. Donc les barbares qui arrivent, il y a toute une discussion, vieille depuis des siècles, de savoir si l'Empire romain d'Occident est tombé à cause d'invasions barbares ou si il est tombé à cause de ses structures internes. Et donc ça, c'est évidemment une dispute d'historien. Déjà, Gibbon, au XVIIIe siècle, marquait le triomphe de la religion et de la barbarie dans la chute de l'Empire romain. La religion, c'était le christianisme. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les royaumes barbares qui succèdent à Rome, en Occident, enfin dans la partie ouest de l'Empire, se veulent romains. Ils obtiennent de l'empereur byzantin des titres de Romains, Clovis et Patrice des Romains, titre accordé par l'empereur de Constantinople. Finalement, ces royaumes barbares vont finir par restaurer l'Empire de Rome avec Charlemagne. Donc, ces barbares sont loin d'être les ennemis de la romanité, puisqu'ils vont la faire réapparaître. Alors, je passe évidemment sur un certain nombre de choses sur Rome, parce qu'on pourrait y rester très longtemps. En même temps, dans cette antique période qu'on appelle maintenant, dans ma jeunesse, on appelait ça le Bas-Empire, et c'était péjoratif, c'était comme les Basses-Alpes. Et aujourd'hui, on appelle ça l'Antiquité tardive, comme on parle des Alpes de Haute-Provence. C'est le même mécanisme. Donc l'Antiquité tardive, non seulement crée les royaumes barbares, amène le triomphe de la religion, mais avec le triomphe de la religion chrétienne puis ensuite celui de l'islam, les choses vont se compliquer puisque vous aurez aussi bien un christianisme comme l'islam, l'idée qu'il y a une unité humaine qui est celle des croyants, et que vous avez une élite sociale qui participe à la haute culture et qui, en tant que telle, évidemment, est vouée à diriger la société. C'est la païdéia qui continue, évidemment, jusqu'au Moyen-Âge, puisque, en fait, elle continue d'être enseignée, en tout cas sur sa version intellectuelle, dans les écoles des royaumes barbares. Et en arabe, c'est la dab, qui est la même chose que la païdéia, en réalité, c'est la culture. Et les lettrés se considèrent toujours comme possesseurs d'une conception supérieure de la religion, et leur mission est aussi d'inculquer autant que possible au peuple les éléments les plus essentiels du message. Mais historiquement parlant, à partir de ce qu'on appelle le début de notre Moyen-Âge, les barbares disparaissent. Les barbares disparaissent tout simplement parce qu'ils se convertissent. Les barbares germains deviennent chrétiens. Ils ont commencé lors des invasions, s'il y en a eu. Mais la partie qui n'avait pas participé aux invasions sous Charlemagne est convertie un peu de force. Et puis ensuite, les royaumes barbares plus à l'est se convertissent. Les Slaves, les Polonais, les Hongrois, les Bulgares, les Russes, tout ça se convertit. C'est par l'acte de conversion, la même chose pour les Scandinaves, évidemment. Ils entrent dans la haute culture, et c'est la même chose du côté de l'islam, évidemment. L'islam convertit ce qui pourrait être aussi des barbares. Et donc, on a un phénomène, dans ce que jadis des historiens philosophes appelaient les périodes axiales de l'histoire, qu'on a que les grandes cultures se dilatent, et elles se dilatent de façon pacifique et pas conquérante. Ainsi, la Chine et l'Inde étendent leur culture, l'Inde à l'Indonésie, comme son indique, et la Chine et l'Inde se retrouvent dans une région qui deviendra l'Indochine. Mais vous n'avez pas de conquête militaire. C'est le Japon se convertit à la culture chinoise, pacifiquement. C'est cette force des hautes cultures qui absorbe les cultures qu'on pourrait, entre guillemets, appeler barbares. Et même si vous avez des peuples, on va revenir sur eux, barbares qui peuvent conquérir, créer des empires, on reviendra sur cette question tout à l'heure, les premiers marxistes, Engels en particulier, disent que ça n'a aucune importance. J'en dis qu'on peut conquérir la Chine, mais les Mongols adoptent la culture chinoise. Tamerlan peut détruire l'espace de l'islam, mais les successeurs de Tamerlan sont des souverains musulmans. Donc, pour les premiers marxistes, il n'y avait pas fondamentalement de révolution lors des invasions. Et ils étaient restés tous à ce fameux mode de production asiatique, qui est quelque chose d'assez énigmatique dans la pensée marxiste elle-même et qui a continué jusqu'au XXe siècle à le rester, d'autant plus que les critiques de l'Union soviétique avaient développé l'idée que l'Union soviétique n'était que la résurrection du mode de production asiatique défini par Marx, et non pas du tout l'avènement du socialisme. Alors, quand vous prenez le marxisme à l'envers, évidemment, ça posait des problèmes. En fait, ce qui est clair et qui permet aussi de comprendre une notion d'aujourd'hui qui est l'histoire connectée, c'est qu'il existe un vaste œcumène. Bon, œcumène, c'est le monde habité, entre guillemets civilisé, on reviendra sur ce terme ensuite, qui va du Japon à l'Atlantique. L'œcumène, les Romains allaient jusqu'à l'Inde. Les commerçants romains allaient vendre du vin en Inde. Ils avaient une vague notion qu'il y avait quelque chose au-delà qui s'appelait la Chine. Et les Chinois avaient une vague notion qu'il y avait quelque chose très à l'ouest qui s'appelait Rome. Mais il n'y a pas eu de Chinois qui soient allés à Rome, et il n'y a pas eu de Romains qui soient allés en Chine, sauf dans Alix Gallus de Lefranc, mais là, ce n'est pas une source historique fiable. L'idée qu'on puisse circuler fait que, en fait, avec les Arabes, la circulation augmente, évidemment. Puisque les conquêtes arabes, entre guillemets, vont de Poitiers d'un côté jusqu'aux frontières de la Chine de l'autre. Donc, évidemment, ça circule beaucoup plus. Et dans le œcumène, tout circule. Les Chinois inventent, semble-t-il, l'étrier. En quelques siècles, ça arrive en Europe. Les Chinois inventent le papier. Quelques siècles, ça arrive via les Arabes en Europe. Les Hindous inventent le zéro. En quelques siècles, les Européens l'adoptent. Et ainsi de suite. Dans l'œcumène, les idées, les concepts, les produits circulent. Et puis, vous savez, il y a eu ce qu'on a appelé l'unification biologique de l'humanité, qui a été le fait qu'avec les Mongols, quand les Mongols, de Mongolie et de Chine, sont arrivés en mer Noire, ils ont apporté la grande peste avec eux. Et au bout de quelques siècles d'invasion, les individus de l'œcumène avaient à peu près la même composition biologique de porteurs de maladies et de résistance aux maladies. Ce qui explique que quand les Espagnols et les Portugais, puis ensuite les autres Européens, arrivent en Amérique, ce sont des bombes biologiques qui détruisent les sociétés indiennes. Et pas simplement en Amérique du Sud. On sait aujourd'hui comment les pauvres jésuites français qui étaient envoyés au Canada, qui passaient leur temps à convertir des tribus indiennes, dans les 10 ans de leur conversion, il y avait 90% des Indiens qui étaient morts. Parce que les missionnaires apportaient avec eux tout le jeu des maladies de l'Ancien Monde. Donc, ce n'était pas très rentable comme opération. Alors, Lévi-Strauss, en 52, posait donc cette question de la capitalisation. Et en fait, il a tenu des discours contradictoires dans son œuvre. Puisque, d'une part, il a expliqué, c'est confirmé par un de mes collègues comme Descola, que les sociétés amérindiennes ne sont pas des sociétés neuves. L'Amazonie, il y a des millénaires d'histoire en Amazonie. Et avant l'arrivée des Européens, l'Amazonie était largement une zone cultivée et non pas une zone vierge. Il n'y a que les écologistes à croire qu'il existait de la forêt vierge en Amazonie. Elle était habitée et cultivée par les Amérindiens. Et simplement, ce qu'on a eu, c'est 90% des Amérindiens qui sont morts de maladie. Et donc là, c'est devenu un peu plus sauvage que ça ne l'était auparavant. Et donc, ce sur quoi s'est battu Lévi-Strauss, c'était de refuser de considérer que les chasseurs-cueilleurs que l'on observait encore de son temps étaient les mêmes que les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Puisque vous savez, le grand problème des préhistoriens, c'est de savoir comment pouvaient fonctionner les sociétés anciennes de chasseurs-cueilleurs. Et donc, comme on avait des gens qui avaient des haches de pierre et des pierres polies en Papouasie, on allait regarder ce qu'allaient faire les gens de Papouasie pour essayer de comprendre comment fonctionnaient les gens de Cro-Magnon. Et ça, Lévi-Strauss disait non. Ça ne marche pas parce que les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, ils ont des millénaires d'histoire derrière eux. Mais en même temps, en un sens, Lévi-Strauss refusait aussi de considérer que ces gens-là avaient une histoire. Donc, il y a une position contradictoire chez lui. Et puis Lévi-Strauss, qui avait démarré sur la notion de l'échange, puisque sa thèse, c'était les structures élémentaires de la parenté, et qui était donc toute une théorie de l'échange, et s'est ensuite passé à autre chose, puisqu'il a considéré les sociétés amérindiennes comme des espaces de transformation, comme une unité culturelle, et donc dans les mythologiques, à fur et à mesure qu'on part d'un point A, par une série de transformations structurelles, les mots, les cultures, les signes se modifient. C'est les fameuses mythologiques de Lévi-Strauss. Alors revenons à l'Europe. Avec l'invention de l'imprimerie, l'humanisme et ce qu'on a appelé assez rapidement la Renaissance. Alors, soyons clairs, les humanistes italiens qui ont lancé le mouvement, même s'ils étaient dans le Vaucluse, ont traité les autres de barbares. Donc, les Français, pour les Italiens, étaient des barbares. Et, en même temps, très rapidement, ils ont défini les siècles qui ont précédé ce qui devenait l'humanisme et la Renaissance, des siècles barbares. Et donc aussi, on a mis aussi à côté de barbares, mais à peu près la même signification, le terme de gothique, les siècles gothiques. Et pour les humanistes, les siècles gothiques étaient évidemment quelque chose que l'on rejetait. Alors ensuite, il y a eu la découverte des Amériques. Alors, c'est vrai que les Hispaniques, enfin les conquistadors, ils sont montrés d'une violence et d'une cruauté absolument terribles, et plus le désastre démographique qui a été mentionné tout à l'heure. Mais surtout, la découverte des Amériques va faire introduire un nouveau personnage que l'on ne connaissait pas avant, le sauvage. Il n'y a pas de sauvage, en quelque sorte, avant la découverte de l'Amérique. Et on fait venir le sauvage en France. Montaigne rencontre des Indiens à Rouen, puisqu'on les a amenés, à titre de curiosité, visiter la France. Et ça donne le célèbre texte de Montaigne sur les cannibales, en montrant que finalement tout le monde a sa culture et que donc par conséquent les Européens sont aussi sauvages que les sauvages ou les sauvages sont aussi cultivés que les Européens. C'est un des grands textes du relativisme, le texte de Montaigne sur les cannibales. Donc le sauvage remplace de plus en plus le barbare dans la pensée européenne. Et en fait, par exemple chez Montesquieu, on a une position différente. On définit de façon différente le sauvage et le barbare. Il y a cette différence, je cite, entre les peuples sauvages et les peuples barbares, que les premiers sont de petites nations dispersées qui, par quelques raisons particulières, ne peuvent pas se réunir, au lieu que les barbares sont ordinairement de petites nations qui peuvent se réunir. Les premiers sont ordinairement des peuples chasseurs, les seconds des peuples pasteurs. Cela se voit bien dans le nord de l'Asie. Les peuples de la Sibérie ne sauraient vivre encore parce qu'ils ne pourraient se nourrir. Les Tartares peuvent vivre encore pendant quelque temps, parce que leurs troupeaux peuvent être rassemblés pendant quelque temps. Toutes les hordes peuvent donc se réunir, et cela se fait que lorsqu'un chef en a soumis beaucoup d'autres, après quoi il faut qu'elles fassent deux choses, l'une qu'elles se séparent, ou qu'elles aillent faire quelques grandes conquêtes dans quelque empire du midi. Donc au XVIIe et XVIIIe siècle, on fait une distinction très claire et très nette entre les sauvages et les barbares. Les barbares, ce sont les nomades. Donc les Arabes bédouins, ce sont des barbares. Les Turkmènes, ce sont des barbares. Les Mongols, ce sont des barbares. Et puis, vous avez les sauvages, qui, eux, n'ont pas de structure politique étendue comme les barbares peuvent l'avoir. Mais comme nos ancêtres de l'époque dite moderne sont des gens compliqués et raffinés, ils vont encore ajouter de nouvelles distinctions. Il y a donc les sauvages, il y a les barbares, et eux, maintenant, ils ont les orientaux. Les orientaux, c'est ceux qui ne sont pas nous, mais qui ne sont pas barbares et qui ne sont pas sauvages. C'est-à-dire les grands États, les grands empires, ceux qui, à l'époque moderne, peuvent être définis comme aujourd'hui comme les empires à la poudre à canon, les cinq empires qui vont de la Méditerranée au Japon, l'Empire ottoman, la Perse safavide, l'Inde moghole, la Chine et le Japon, des shoguns. Les cinq empires à la poudre à canon. Et ces cinq empires sont considérés comme des équivalents de l'Europe. À juste titre, d'ailleurs. La Chine et l'Inde font plus de 50% de la production mondiale des produits manufacturés vers 1750. Donc, les Européens se sentent humbles. Il faut rappeler que ce sont les produits indiens qui alimentent l'Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Ce sont les fameuses cotonnades, les indiennes, qui inondent le marché européen. Mais ce sont les Européens qui vont les chercher, hein, attention. De ce domaine-là, les orientaux sont les équivalents de l'Europe. Alors maintenant, on est très bien dans le domaine de l'histoire connectée, puisqu'on a des jésuites en Chine et au Japon, etc. Et on s'est aperçu, parce qu'il y a eu une longue discussion d'historiens, sur la question de l'armement. On avait dit, les Européens, à partir du XVIIe siècle, il y a une révolution militaire européenne, avec la création de la discipline, l'usage systématique des armes à feu, et les techniques d'utilisation des armes à feu, et ainsi de suite. Si vous avez rappelé le film, vous avez peut-être vu de Kurosawa, Kagemusha, on voit à quelle vitesse les mousquets européens arrivent au Japon. Et en fait, jusqu'à 1750 à peu près, toutes les novations techniques militaires européennes sont pratiquement adoptées dans les décennies qui suivent jusqu'au Japon. Les techniques de tir, les techniques de bataillon, de carré, etc., toutes les techniques militaires européennes sont identiques à celles qu'on trouve en Asie, ou en tout cas revient à peu près au même, jusqu'à la première moitié des XVIIIe siècle. Ce qui montre en histoire connectée que, évidemment, les relations à l'intérieur de l'œcumène se sont accélérées par rapport à la période médiévale. Alors maintenant, les Européens, eux, parce qu'ils vont en Orient, ils commentent les sociétés orientales et s'en servent d'exemple. La sinomanie du XVIIIe siècle, c'est-à-dire cette manie de la Chine, elle est un discours sur la méritocratie contre l'aristocratie. Les Chinois accèdent aux fonctions publiques par des concours et non pas par l'aristocratie de naissance. Ça, c'est un des sens de l'Orient. On utilise l'Orient pour contester les mécanismes de sa propre société. Mais en même temps, la circulation des produits va être une des raisons qui vont expliquer l'industrialisation de l'Europe. Parce que les produits asiatiques vont créer des marchés en Europe et la révolution industrielle européenne se fera par un mécanisme de substitution aux importations. Le premier mécanisme de la révolution industrielle a été le remplacement des cotonnades indiennes par les cotonnades britannique, mais par le biais de l'industrialisation. La porcelaine chinoise a suscité la naissance de la porcelaine de Limoges, et on pourrait multiplier les exemples de ce genre. Alors, les barbares, eux, ils se restent aussi dans l'histoire. Nous pensons, en termes quadriques, antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine, ça c'est les structures de l'enseignement en France, avec les quatre époques. Les gens du XVIIIe siècle, eux, pensaient en termes binaires. Il y avait les anciens et les modernes. Et la modernité commençait à la fin de l'Empire romain d'Occident. Autrement dit, la modernité est barbare. Et le discours des aristocraties européennes était de se poser comme héritière d'un droit de conquête, puisque les aristocraties, ce qui est totalement faux évidemment, étaient censées être les héritiers des conquérants germaniques. Dans l'Europe, dans la France du XVIIIe siècle, la noblesse voulait germanique et le tiers-état était gaulois ou romain. Ce qui a amené d'ailleurs la phrase célèbre de Sieyès en 1788, dans « Qu'est-ce que le tiers-état ?» en disant « s'ils continuent à se vouloir comme germains, on n'a qu'à les renvoyer dans les forêts de Franconie ». C'est ce qu'on a appelé la lutte des races, qui était le discours historique qui va du XVIe jusqu'à la première partie du XIXe siècle dans l'historiographie française. Alors, les barbares sont donc les pères de l'Europe, en un sens. Et c'est ça qui rend la notion très compliquée pour les Européens, c'est que la culture européenne se définit, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, comme à la fois l'héritière de Rome et comme héritière des barbares. Et donc on a les grandes controverses entre les anciens et les modernes, et qui va durer au moins jusqu'à Benjamin Constant, de la liberté des anciens et de la liberté des modernes. J'insiste sur ces points parce qu'évidemment ça montre la variété de choses qui existent dans l'univers culturel européen. Alors, on va passer maintenant à cette période absolument extraordinaire, c'est presque décennie, c'est un peu plus en fait, quelque chose qui va de 1748, de mémoire, qui est la publication de l'Esprit des lois de Montesquieu, à, disons, 1763, qui est le traité de Paris, qui met fin à la guerre de 7 ans, la guerre de 7 ans étant considérée aujourd'hui par un certain nombre d'historiens dans moi comme la date pivot de l'histoire de l'Europe. Comme vous le savez tous, la guerre de 7 ans est d'abord une première guerre mondiale, puisqu'elle a commencé entre Français et Britanniques en Amérique, et qu'elle s'est poursuivie non seulement en Allemagne, plus en France où les Français ont eu quelques raclées, mais aussi en Inde. Donc les Européens se sont battus sur trois continents durant cette fameuse guerre de 7 ans. Et c'est dans la guerre de 7 ans qu'on voit apparaître des discours sur la nation, la patrie, le citoyen, chez les belligérants. Tout le vocabulaire qui sera celui de la Révolution française émerge durant la guerre de 7 ans. Donc, l'Esprit des lois de Montesquieu est à la fois un essai de synthèse comparative de toutes les connaissances accumulées sur l'ensemble des sociétés humaines, mais en même temps, c'est un monde stable, ou relativement stable. C'est très compliqué, l'Esprit des lois. Il n'y a pas de notion de progrès dans l'Esprit des lois de Montesquieu. Il y a une opposition systématique des anciens et des modernes, ça c'est aussi, et avec l'apologie de Barbare, nos pères les anciens germains, dit Montesquieu quelque part, Mais s'il y a opposition des anciens et modernes, il n'y a pas de notion de progrès. Quand on passe à l'essai sur les mœurs de Voltaire, 1756, là aussi, vous avez une description plus chronologique et plus géographique de l'ensemble des cultures humaines, mais là, le progrès apparaît à peine. Il y a simplement à la fin de l'esprit des lois l'idée que nous autres Européens, nous sommes plus tardifs que les Orientaux, mais qu'on les a dépassés. Donc on voit la distance qu'il y a déjà entre Montesquieu et Voltaire à quelques années. Mais en même temps, 1751, c'est Rousseau, le discours sur les sciences et les arts, qui pose la contestation du progrès, enfin pas du progrès encore, du raffinement humain. Et il y a paradoxalement dans le discours de Rousseau une apologie des barbares. Je cite « Opposons à ces tableaux celles des mœurs du petit nombre de peuples qui préservaient de cette contagion des fins de connaissance » ont par leur vertu fait leur propre bonheur et l'exemple des autres nations. Tels furent les premiers Perses, nation singulière chez laquelle on apprenait la vertu, comme chez nous on apprend la science, et ensuite les Scythes, les Germains, etc. Rousseau, c'est un apologète des barbares, parce qu'ils sont vertueux. Jeune Turgot est absolument passionnant, il n'a pas 25 ans, quand il a écrit ses fameux plans de deux discours sur l'histoire universelle en 1751, qui est la seule thèse intéressante d'histoire soutenue à la Sorbonne en quelques siècles. Je parle avant le 19e siècle, rassurez-vous. D'abord parce qu'il pose l'histoire universelle, ensuite parce qu'il introduit pour la première fois de façon systématique la notion de progrès successif du genre humain. Il parle de révolutions qui font succéder les empires aux empires, les nations aux nations, les religions aux religions. Et dans sa discours sur l'histoire universelle, Turgot montre que le premier état de l'humanité, c'est celui des chasseurs-cueilleurs. Le second état, c'est celui des nomades-éleveurs. Et de façon intéressante, contestant Rousseau, avant même que Rousseau parle, Turgot dit que la propriété est liée au nomadisme. C'est quand vous avez des troupeaux que vous avez de la propriété. Et contrairement, Rousseau dit le premier qui définissait un terrain qui dit ceci m'appartient, la propriété chez Rousseau est liée à la propriété de la terre. Tandis que Turgot dit non, la propriété, c'est le nomade, c'est l'éleveur. Et donc Turgot dit, le grand mouvement de l'histoire, ce sont les barbares balancent toujours à travers l'Ancien Monde, tels furent les Mèdes, les Perses, les Scètes, les Teutons, les Cimbres, les Suèves, les Germains, les Allemands, les Scythes, les Jettes, les Huns, les Turcs, les Tartares, les Mogols, les Mandchous, les Kalmouks, les Bédouins, les Arabes, les Berbères. Ça, c'est ce qu'explique Turgot en 1751. Donc, Turgot ensuite évoque une évolution intellectuelle de l'humanité qui va vers l'accession progressive aux Lumières. Et il dit donc, formule qui annonce à 50 distances celle de Voltaire, l'Europe plus tardive que l'Asie a porté les fruits plus nourrissants et plus féconds. Donc je passe sur Rousseau et on va enfin arriver à quelque chose dont je n'ai pas parlé depuis le début, la civilisation. Puisque le premier à avoir utilisé le mot civilisation en langue française et dans le monde en général, bon, civilisation a d'abord un sens juridique, jugement qui rend civil un procès criminel attesté en 1721. Mais c'est le marquis de Mirabeau, le père du tribun révolutionnaire, dit l'ami des hommes, dans son livre de 1756, l'ami des hommes ou traité de population, publié à Avignon. C'est un livre qui a eu un énorme succès à l'époque, presque considéré comme l'équivalent de l'esprit des lois. Et donc l'ami des hommes insiste sur un concept central qui est celui de sociabilité, c'est-à-dire la capacité des hommes à vivre en société. Et la sociabilité est définie par l'attachement à ses proches, à ses amis, au public, à la patrie et au gouvernement. Toutes les vertus humaines dérivent de la sociabilité, tous les vices de la cupidité. Et la civilisation est ce qui rend l'homme sociable. Alors, ça n'apparaît que deux fois dans le texte de Mirabeau. La religion est sans contredit le premier et le plus utile frein de l'humanité. C'est le premier ressort de la civilisation. Elle nous prêche et nous rappelle sans cesse la confraternité, adoucit notre cœur, élève notre esprit, flatté des rythmes. Et il parle aussi, déjà, en 1756, du cercle naturel de la barbarie à la décadence par la civilisation. Ce qui rappelle la vieille plaisanterie que les Américains sont passés directement de la barbarie à la décadence sans passer par la civilisation. Mais ça, c'est une autre histoire. Dès lors, non seulement Mirabeau utilise le terme de civilisation, mais il utilise le terme de civilisé en termes d'adjectif, de verbe. Si les Chinois eussent employé à civiliser les Tartares, la dépense que leur coûta la Grande Muraille, ses fiers voisins ne les eussent jamais subjugués. Civilisez vos voisins et de proche en proche, s'il en est possible, l'univers entier, et vous n'aurez plus rien à craindre. Et très vite, civilisation remplace les vieux termes de police et de policé. Alors, il y a un débat avec la perfide Albion, parce que les Anglais sont embêtés. Il y a tout ce mouvement, très grand mouvement, de ce qu'on appelle les Lumières écossaises, autour de David Hume, Adam Smith, etc. Et ils n'ont pas inventé le mot civilisation, donc c'est au centre. On sent dans les textes des Lumières écossaises des expressions comme civility, refinement, civilized edges, civilized people, civilized monarchies, civil liberty, civil society, mais pas civilisation. Il faut attendre Adam Ferguson, en 1767, donc 10 ans après Mirabeau, dans « Essay on the History of Civil Society », pour voir apparaître en anglais le mot « civilisation ». Il est l'équivalent de « politeness », mais on est déjà dans la notion de « processus », puisque Ferguson utilise le terme, enfin le mot, the progress of civilization. Alors, je passe sur la contestation. On sait que les Français lisaient David Hume, il n'y a pas de problème, Mirabeau, cite Hume, etc. Mais les autres Lumières écossaises, ils les connaissaient mal. Ferguson a été traduit en français dans les années 1780. Mais donc bien après que le mot « civilisation » ait acquis son plein sens en français. En réalité, c'est un problème linguistique. Les sociétés d'Ancien Régime sont des sociétés stables. Et donc, comme elles sont des sociétés stables, elles ne pensent pas à la transformation. Donc, Benveniste, une grande illustration de cette maison, a bien marqué qu'il ne compte dans la langue française que 5 mots en nation avant 1750. alors qu'il en aura créé 70 entre 1750 et 1800. Par exemple, sans culotte, sans culottisation, déchristianisation, etc. Les mots en action apparaissent massivement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et donc appartiennent à un mouvement pensé de transformation sociale qui correspond à la fois aux lumières finissantes et au démarrage du processus révolutionnaire. Car tout est nié sur la notion de progrès. Pour comprendre le progrès, il faut comprendre que le progrès, c'est un mouvement. Et tout mouvement ne peut être défini qu'en fonction de points de repère. Et donc, il n'existe que deux points de repère possibles pour le progrès. Sa propre histoire. Nous sommes mieux qu'avant. Et les autres. Nous sommes mieux que les autres qui correspondent à notre passé. Et donc, à partir du moment où vous marquez la supériorité de l'Europe, c'est-à-dire dans la décennie de la guerre de 7 ans, vous définissez que les autres sont en retard. Progressivement, on le voit par exemple chez Volney en 1780, l'Orient, c'est le passé dans le présent. Ce qui est une notion temporelle essentielle. Alors, on cesse d'avoir une histoire humaine universelle sous sens de la révélation divine, ça c'était la vieille vision biblique, en quelque sorte, la révélation progressive de la foi, pour arriver à une histoire laïque. Et donc, les penseurs des Lumières finissantes ont inventé ce que j'ai appelé jadis le club méditerranéen des sciences et des arts. C'est-à-dire, les sciences et les arts sont nés en Égypte antique, des pharaons. On ne sait pas ce que c'est à l'époque, donc ça peut marcher. Ensuite, les sciences et les arts via l'Orient sont passés aux Grecs et aux Romains. Quand les Grecs et les Romains se sont cassés la figure à cause des barbares, elles sont passées aux Arabes. Et ensuite, les Arabes les ont très gentiment retransmis aux Européens à partir du XIIIe siècle. C'est ce que j'appelle le Club Med de l'histoire, qui était en gros encore ce qui était enseigné dans les lycées français dans ma jeunesse, puisque la première année, classe de 6e, on faisait Égypte, Orient, Grèce, et ensuite, là, en sa classe de 5e, on faisait Rome et les Arabes. À l'époque, on était encore à l'époque des Lumières. Alors, évidemment, parmi les théoriciens, c'est Condorcet qui compte dans son texte posthume. Écrit sous la terreur, enfin, sous la terreur, on sait que la notion de terreur est contestée aujourd'hui, dans lequel non seulement il marque la supériorité européenne et surtout l'idée que le meilleur est encore à venir, ça c'est la notion de progrès, mais que les Européens ne doivent plus être, par rapport au reste du monde, des corrupteurs ou des tyrans, pour devenir des libérateurs. Le processus sera d'autant plus facile que les autres peuples disposeront en même temps du savoir et des méthodes sans avoir à faire la longue et pénible élaboration. Et on a déjà pratiquement chez Condorcet, donc on est en 1792-93, la notion de la fin de l'histoire. Il arrivera donc ce moment où le soleil n'éclairera plus sur la terre que des hommes libres, ne reconnaissant d'autres maîtres que leur raison, où les tyrans et les esclaves, les prêtres et leurs stupides et hypocrites instruments n'existeront plus que dans l'histoire et dans les théâtres, où l'on ne s'occupera plus que pour plaindre leurs victimes et leurs dupes, pour s'entretenir par l'horreur de leurs excès dans une utile vigilance, pour savoir reconnaître et étouffer sous le poids de la raison les premiers germes de la superstition et de la tyrannie, si jamais ils osaient réapparaître. C'est ça que ça peut appeler une bonne laïcité. Ce qu'on voit apparaître à la fin du XVIIIe siècle, c'est la philosophie de l'histoire. Simple problème, c'est que la philosophie de l'histoire pose des problèmes. Si l'histoire a une finalité, on n'a qu'à se laisser emporter par elle. Et donc, on n'est plus libre d'agir. Et ce sera tout le problème de toutes les philosophies de l'histoire, que la téléologie, c'est-à-dire la finalité de l'histoire. D'où le fait, par exemple, chez Condorcet, de dire « Ah oui, il peut y avoir des risques de retour en arrière. » C'est ce qui s'est passé chez les Arabes. Le fanatisme et le despotisme a empêché les Arabes d'accéder au stade suprême, et donc ils ont été obligés de transmettre ça aux Européens. Ce qui est un avertissement pour nous. Il ne faut pas que nous ayons le même sort que les Arabes. Et l'autre problème de la philosophie de l'histoire, c'est la dévalorisation de toutes les étapes de l'histoire à cause du prix donné à la finalité. Donc il y a une prédestination qui est liée à la philosophie de l'histoire. Alors, rassurez-vous, la philosophie de l'histoire, on l'a finalement donnée aux Allemands, parce qu'ils n'avaient rien à faire. Je veux dire, les Français et les Anglais, ils étaient en train de faire la révolution et de conquérir le monde. Ils étaient sur plusieurs continents, tandis que les Allemands, eux, ils restaient enfermés dans leurs universités. Les seuls Orientaux qu'ils connaissaient, c'était les Turcs, qui étaient un danger à leurs frontières. Et donc, quand on est à Königsberg, on ne fait pas la conquête de l'Inde ou de l'Amérique, on fait la conquête de la pensée. Et la philosophie de l'histoire va devenir un privilège allemand parce que les Allemands sont, entre guillemets, en dehors de l'histoire. Alors, ils sont vexés, ils vont dire qu'eux, ils sont au centre, ça c'est Hegel, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, passons à la Révolution française. La Révolution française, elle a un concept clé et absolument essentiel, c'est le concept de régénération. La régénération est une transformation à un passage, à un autre état. Au départ, la régénération est une notion religieuse. L'être humain est régénéré par le baptême ou par la mort où il accède à la vie éternelle. C'est ça, la régénération. Accessoirement, un sens médical pour un membre blessé ou malade qui récupère ses qualités. La régénération est le mot valise des premières années de la Révolution. On peut dire que le premier texte, d'ailleurs, sur la régénération, c'est celui de l'abbé Grégoire, en 1788, essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs. Et la régénération comprend cette idée qui est que dans notre vocabulaire, à nous, on dirait qu'il y a des aliénations qui empêchent des groupes humains d'accéder à la plénitude de l'être humain. Et donc, la régénération, c'est ce qui va permettre aux groupes humains aliénés de récupérer leur plénitude humaine. D'où un des problèmes centraux de la Révolution. Non seulement la régénération s'applique aux Français, ça c'est normal, mais est-ce qu'elle s'applique aux Juifs et aux Noirs? Parce que ce sont des groupes aliénés, donc il faut les transformer pour que, pas simplement les libérer, mais les transformer pour qu'ils accèdent à la totalité des qualités de citoyens. Ce qui fait que les auteurs du XVIIIe siècle, comme Grégoire, sont aujourd'hui contestés en disant « mais ils ont détruit la culture, soit des Arabes, soit des Noirs, soit des Juifs, etc. Ce sont des affreux impérialistes. » Eux, ils avaient le sentiment de faire des bonnes choses. Alors, c'est Grégoire, on est encore à la régénération 2, et en 1789, c'est la régénération tout court. Et cette régénération, elle se comprend par l'idée que l'être humain a des qualités, en quelque sorte, antérieures, enfin prédestinées. Les droits de l'homme n'ont pas été inventés par la Révolution. La Révolution restaure les droits de l'homme, qui ont été oubliés. Voilà le discours des révolutionnaires français. Donc l'homme nouveau de la Révolution française est un homme régénéré, parce qu'il retourne aux principes fondamentaux qui sont des évidences, d'où la fameuse discussion avec les Britanniques, avec la pensée contre-révolutionnaire, qui dit non, il y a l'histoire. Burke dit, dans Considération sur la Révolution française, que les Français sont en train de briser le cours de leur histoire. Les Anglais sont libres parce que l'histoire de la Grande-Bretagne est un processus d'accession progressive à la liberté. Et la réponse française, c'est la fameuse phrase de Rabault-Saint-Étienne, l'histoire n'est pas notre code. Puisque nous redémarrons à zéro par un retour aux origines, puisque les droits de l'homme sont à l'origine de l'homme lui-même. Alors, les contre-révolutionnaires vont d'abord évidemment définir les actes de la Révolution française comme des actes de barbarie. Quand vous coupez la tête du prévôt des marchands ou du gouverneur de la Bastille que vous le mettez sur une pique, c'est un acte de barbarie. Et donc on ira même chez Rivarol, le grand penseur français de la contre-révolution, au même moment de la révolution elle-même, à dire que les révolutionnaires commettent des crimes contre l'humanité. Ce qui est, après connaissance, la première occurrence que j'ai trouvée du terme crime contre l'humanité. Alors, ce qui va se passer dans les années de la Révolution, c'est que progressivement, la Révolution se passant, même si elle se passe mal, le programme de régénération est effectué. Après tout, on a fait un nouveau calendrier, on a fait un nouveau système métrique, on a fait un nouveau territoire, on a fait disparaître les provinces pour faire des départements, on a tout reconstruit. Donc la régénération, elle est en cours. Elle est faite. Et dans la mesure où on a le sentiment de plus en plus, à partir du milieu des années 1790, que la régénération est en train de s'achever, le mot régénération est progressivement remplacé par le mot civilisation. Et on a ainsi, par exemple, dans la publication des œuvres posthumes de Champfort, le titre originel de son livre qui était produit d'une civilisation perfectionnée, 1795 pour la publication, mais évidemment 1793 pour la rédaction. Ce texte est maintenant universellement connu sous le nom de Maximes et Pensées. Mais on voit donc que le mot civilisation est maintenant devenu le mot valise partout, etc. Surtout dans les années 90, enfin, la seconde partie des années 90, l'expansion française se continue. On a fait des républiques sœurs en conquérant l'Italie et la Hollande. La France devient la grande nation. Et dans les idéologues du directoire, au sens propre du terme, puisque la dernière génération des Lumières s'appelle les idéologues, chez les idéologues, il y a l'idée que le message de la Révolution française a portée universelle et que la régénération de la France n'est que la première étape de la régénération de l'humanité. Et donc, cette régénération de l'humanité va s'appeler la civilisation en tant que processus. Et c'est ce que fait Bonaparte en Égypte en 1798 en expliquant à ses soldats qu'il se lance dans une conquête dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables. Ceci est l'ordre du jour de l'armée française le 22 juin 1798. Et à partir de ce moment-là, inutile de vous dire que tout le discours napoléonien jusqu'à 1815, c'est un discours sur la civilisation. S'il y a un mot-clé des idées napoléoniennes, c'est « civilisation ». Il apporte la civilisation à l'Europe du Sud décadente, donc en faisant la conquête de Naples, et puis ensuite la conquête de l'Espagne. C'est une œuvre de civilisation. Et la grande guerre contre la Russie est une guerre de la civilisation contre la barbarie russe. C'est pour ça que les Russes n'aiment pas beaucoup le terme civilisation. Et on a ainsi, bon, le décret par exemple, il y a d'innombrables citations de Napoléon sur ce thème, le fameux décret de Berlin du 21 novembre 1808 qui établit le blocus continental, que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout des premiers âges de la barbarie, a profité à cette puissance au détriment de tous les autres, qu'il est de droit naturel de poser à l'ennemi des armes dont il se sert et le combat de la même manière, hein, résultat de la civilisation parmi les hommes. La France, c'est la civilisation parmi les hommes. Alors, je passe parce qu'on va commencer à avoir, dans les premières décennies du XIXe siècle, la réaction à la civilisation. Cette réaction à la civilisation, elle vient de l'Allemagne, puisque la civilisation est identifiée à l'imposition de la culture française. Les Allemands, dans ce qui est en train de devenir le romantisme, vont opposer à civilisation la notion de culture. Autant la notion de civilisation est une projection vers l'avenir, autant la notion de culture est un enracinement dans le passé. Et chaque peuple doit être fidèle à sa culture au lieu de l'abandonner au profit d'une civilisation universelle. C'est l'opposition aujourd'hui entre mondialistes et antimondialistes qui se constitue en réalité dans les catégories de la pensée allemande des premières décennies du XIXe siècle. Ce qu'ensuite on ne fait qu'infiniment et inlassablement répéter jusqu'à aujourd'hui dans le reste du monde. Alors je pense, parce qu'il y a encore des heures que je pourrais disserter sur ce sujet, l'autre barbarie qui veille, qui menace l'Europe, c'est le prolétariat, ce sont les classes dangereuses. C'est le célèbre texte Saint-Marc Girardin en 1831. Les prolétaires sont les nouveaux barbares. Aujourd'hui, les barbares qui menacent la société ne sont point du Caucase ni dans les steppes de la Tartarie, ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Et donc, ce que doit faire la bourgeoisie, c'est civiliser les nouveaux barbares qui constituent les classes dangereuses de la société. Ce qui trouvera sa dernière et très grande expression dans l'œuvre scolaire de Jules Ferry, qui est une œuvre de civilisation des paysans et des ouvriers. Alors, je passe sur là parce que, évidemment, on va basculer de la civilisation au singulier aux civilisations au pluriel. On va basculer de la façon suivante. Le plus grand penseur de la civilisation dans la première moitié du XIXe siècle, c'est Guizot, dans sa fameuse Histoire de la civilisation en Europe, publiée en 1828, dans laquelle il dit qu'il y a des civilisations qui se trouvent l'expression d'un principe unique, comme les civilisations en Asie ou l'Antiquité, alors que le moteur de l'Europe, c'est la diversité et l'opposition constante des éléments. Et donc, comme on le sait, Guizot va partir de la notion de diversité européenne qui introduit la notion de lutte. Et la notion de lutte, c'est d'abord la lutte des races, puis ensuite la lutte des classes chez Guizot, qui constitue le meneur de l'histoire européenne parce que cette lutte projette toujours l'Europe vers l'avenir par rapport aux autres sociétés qui sont des sociétés stables, qui ne bougent pas, qui correspondent à une essence qui est incapable de se mouvoir. Ceci donc va introduire, dès le milieu du XIXe siècle, la notion de civilisations au pluriel. Donc, on parlera progressivement civilisation arabe, chinoise, japonaise, africaine, et ainsi de suite. Mais en fait, on est dans la logique qui est tout à fait résumée par l'expression anglaise que j'aime beaucoup, « the West and the rest », l'Occident et les autres. Et les autres, ce sont les civilisations au pluriel, parce que l'Occident est la civilisation au singulier. Alors évidemment, c'est le discours de la fin du XIXe siècle. Ah, je passe parce que j'ai déjà très largement dépassé et que je suis un très mauvais exemple. Qu'en est-il des barbares aujourd'hui ? Bon, dernière nouvelle, se porte bien. Puisque vous savez que certains représentants barbares ont fait florès ces derniers temps. Un certain Conan le Barbare, par exemple, a eu beaucoup de public. Vous avez de la musique gothique, et de façon générale, les barbares se portent bien, sauf chez les Allemands, parce que là, il y a un problème avec le nazisme, qui était une restauration des barbares. Donc les Allemands d'aujourd'hui sont un peu gênés sur leurs barbares, mais les autres en couvent, les Polonais, les Hongrois, les Bulgares, etc., tous les héritiers des peuples barbares se fondent, sont fiers de cet héritage barbare. Bon, la discussion sur la mondialisation est un problème insoluble, enfin on ne va pas le résoudre ce soir, aujourd'hui. Ce que l'on a aujourd'hui, c'est un discours essentialiste qui ne fait que reprendre en l'inversant les catégories coloniales. Aujourd'hui, en Chine, on dit qu'il y a une essence chinoise, en Inde, il y a une essence indienne, en Afrique, il y a une essence africaine, et donc que l'Europe n'est pas universelle ou l'Occident n'est pas universel. Mais du coup, si l'Europe n'est pas universelle, l'Occident n'est pas universel, les droits de l'homme cessent d'être universels. Et c'est donc tout le débat d'aujourd'hui. Mais en réalité, les questions de la diversité culturelle doivent d'abord être conçues à l'intérieur de nos propres sociétés. Quand on est aux 3e, 4e ou 5e génération de gens issus dits de la diversité en jargon contemporain, ils n'ont pas amené avec eux une culture d'origine. Ils ont une culture qui a été élaborée à l'intérieur de la nôtre. C'est ce qu'on appelle en sociologie une subculture, mais pas une culture importée. L'exemple parfait, c'est la musique rap. Création des Noirs américains, relayée par les Arabes occidentaux d'Europe. Donc on voit très bien que le rap n'est pas une expression culturelle originelle d'une culture, mais plutôt l'expression d'un phénomène de mondialisation, avec des correspondances entre situations sociales qui ne coïncident pas avec des groupes ethniques. Je passe donc sur tout ça, parce que ce serait au moins 3 heures de plus. Je terminerai par une contestation de la notion d'appropriation culturelle, qui est une revendication essentialiste, qui est le contraire des mélanges qui a toujours été permanent dans la culture matérielle et même dans la haute culture. Il en est ainsi de la cuisine, des arts martiaux, de l'habillement ou de l'ameublement. Vous pouvez être au plus profond de la province française, là où il y a des gilets jaunes. Vous avez quand même des restaurants chinois, des cours d'aïkido et un certain nombre d'autres héritages culturels venus de l'extérieur. L'authentique n'est en réalité bien souvent que l'adoption du discours de l'autre sur soi-même. Et je me permettrai en conclusion de renverser la formule. de Lévi-Strauss. Aujourd'hui, le barbare n'est plus ce qui croit à la barbarie, mais celui qui pense au singulier, les appartenances culturelles, et qui les enferme dans une essence quasi immuable. Voilà. Mais je m'accorde quelques minutes de plus pour la discussion, si vous le voulez, puisque je suis souverain au sein de cet amphi. Alors, il y a deux jeunes gens là qui, pour établir la parité, ont les micros, donc si vous avez quelques questions à poser. Pas de questions ? Je vous ai terrorisé ?
Bonjour, merci. J'aurais aimé que vous reveniez sur la similitude ou l'opposition, puisque apparemment vous l'avez faite, entre les termes culture et civilisation. Je pense comme ça spontanément à l'ouvrage de Freud, Malaise dans la civilisation, qui en fait, en allemand je crois, il utilise le mot culture, Kultur. Donc voilà, si vous pouviez élaborer sur ce point. Merci.
C'est-à-dire qu'il y a, bon, évidemment, on a des séries d'appropriations absolument différentes. La notion de culture, au départ, c'est l'intégration vers le passé. C'est-à-dire qu'on est les héritiers d'une culture et d'un certain nombre de catégories mentales et ainsi de suite par rapport à la civilisation qui, elle, est une progression vers l'avenir. Et donc, le conflit franco-allemand qui commence de Napoléon jusqu'à Hitler, en quelque sorte, va être construit dans une opposition entre culture et civilisation. En particulier, durant la Première Guerre mondiale, les Français, aussi les Anglais, seront les gens qui se sont lancés dans la Grande Guerre pour la civilisation, et tandis que la culture allemande, dans le discours de la France et de l'Angleterre, n'est que la reproduction de la barbarie. C'est pour ça que les Français et les Anglais appellent les Allemands les Boches. Ils les renvoient à la barbarie. Mais c'est compliqué par le fait que, justement, dans l'Allemagne impériale, à partir de la fin du XIXe siècle, vous avez un retour à la barbarie. Alors, ça peut être d'un côté le fait, par exemple, qu'on va célébrer les victoires des Germains sur les Romains, d'autre part, on va commencer à avoir un discours qui va rejeter ce qui n'est contraire à l'essence de la germanité. Et de façon intéressante, mais là, ce n'est pas le temps de l'évoquer ici, mais c'est évidemment un débat d'aujourd'hui, ce que ces penseurs, à partir de Nietzsche, vont rejeter comme contraire à la germanité, c'est ce qu'ils vont appeler l'héritage, voilà, contamination judéo-chrétienne. Et donc la restauration de l'essence allemande passe par la négation de la part judéo-chrétienne de la culture allemande, qui est quelque chose qui opprime les Allemands. Et ça continuera jusqu'au Troisième Reich, où vous aurez une restauration du paganisme germanique dans le Reich. La SS fait des cultes païens. Donc on a là, en effet, un retour extrêmement offensif, mais au nom de la culture. Voilà. Alors, par contre, dans d'autres utilisations, culture et civilisation sont synonymes. Alors, en plus, les anthropologues vont mettre de la culture partout. Donc culture matérielle, culture intellectuelle, etc. Ce qui fait qu'on n'a pas des... Alors, par exemple, dans les années 50-60, quand la décolonisation arrivait, qu'on n'était plus très content de nos discours coloniaux, on avait supprimé les civilisations et on les avait remplacées par les aires culturelles dans l'université française. Mais bon, aujourd'hui, ce sont les autres. Enfin, quand on fait quelqu'un qui parle du conflit, du clash of civilizations, il ne fait que reprendre des catégories qui renvoient au minimum à l'entre-deux-guerres, puisque les deux grands historiens ou penseurs de la civilisation comme phénomène historique, je n'ai pas le temps de l'évoquer aujourd'hui, c'est Spengler et Toynbee. Spengler dans le déclin de l'Occident et Toynbee dans A Study of History. Le Clash of Civilizations ne fait que reprendre les catégories de Toynbee pour les, évidemment, les contester, enfin, en faire un usage que Toynbee n'aurait jamais pensé en faire. Autre question ? Vous êtes terrorisé à ce point-là ? Mais... Oui, il y a une question là.
Merci. Dans le monde moyen-oriental, que vous connaissez mieux que nous, en délabrement presque total, est-ce qu'il y a au sein de cet univers des gens qui pensent aux causes de ce délabrement, des penseurs, j'entends.
Oh, ça fait un bon siècle que ça dure, hein, même plus maintenant, 150 ans.
Mais là, vraiment, on est au stade de destruction physique.
Non, ce que vous avez, c'est... Bon, il y a l'équivalent, en tout cas l'opposition, dans la culture arabe et islamique traditionnelle, même si on l'a défini par Ibn Khaldoun, mais c'est plus compliqué, parce qu'il y en a d'autres qu'Ibn Khaldoun qui utilisent les mêmes catégories. Vous avez l'opposition entre le sédentaire et le bédouin. Le sédentaire étant l'homme de la ville, étant l'homme de la civilisation. Le nomade étant l'homme de la force, et donc régulièrement, il prend le contrôle de la ville pour ensuite se civiliser, donc devenir mou, et quelque sorte être remplacé par celui qui arrive avec la force. De nouveau, bon, je ne fais que simplifier le schéma khaldounien, qui est évidemment beaucoup plus compliqué que cela. Mais c'est bien cette idée que la ville désarme et que la campagne ou le nomadisme arme. Ça, c'est cette notion. Et alors, donc, quand ils rencontrent les Européens, enfin, quand il y a l'expansion européenne qui arrive, il se pose la question comment réinterpréter les textes, comment interpréter la réalité d'aujourd'hui à partir du prisme de la culture que l'on possède au départ. Et on le voit très bien chez Rifat al-Tartawi, qui donc va à Paris 1828 à 1831. Et donc dans sa narration de voyage, toutes les deux premières pages, c'est un essai de définir le mot « civilisation ». Parce qu'il n'a entendu que ça à Paris. Et donc, il va proposer un certain nombre d'équivalents arabes. Et au XIXe siècle, les équivalents arabes, en général, ce seront Tamadoun, Madaniya, Rumran. Ensuite, mais semble-t-il plus tardivement que je le pensais, ce sera plutôt au XXe, Hadara. Mais donc, évidemment, c'est des notions absolument clés, et la notion de retard est une notion clé. Tous ces gens pensent en termes de retard. Quand Hassan al-Banna fonde les frères musulmans vers 1930, c'est le moyen pour les musulmans de rattraper leur retard sur les Européens. Et dans les discours d'avant 14 et même au-delà, vous avez des discours du monde arabe ou du monde musulman au monde civilisé. Donc cette notion avait été parfaitement intégrée par les acteurs politiques du monde arabe ou de l'islam jusqu'à la période de l'entre-deux-guerres. Mais ça, bon, on est dans un autre sujet aussi qui est le problème de la déclinaison d'aujourd'hui, puisque les Asiatiques sont dans le mode de la revanche, les musulmans dans le mode du ressentiment, par rapport à une Europe ou un Occident qui, lui, ne sait pas de quoi on parle. Ce qui est un autre problème. Autre question ?
Merci. Est-ce que vous pourriez nous conseiller, ou avez-vous écrit un ouvrage dans lequel on puisse retrouver ce que vous nous avez présenté ce matin, s'il vous plaît ?
Ouais, c'est un work in progress, en bon français. Donc, une part de l'exposé que j'ai fait aujourd'hui va être publié probablement l'année prochaine dans un acte de colloque sur la notion de civilisation que j'avais monté avec Régis Debray récemment. Mais il faut attendre une bonne année pour la publication, puisqu'on est en train de rassembler les actes pour l'instant. Et donc, vous aurez une première version de ce texte, parce que là, c'est déjà une seconde version.
Et tu me permets juste un point. Également, oui. Dans le début de ton ouvrage sur l'expédition en Égypte, il y a de longs développements.
Surtout dans le Royaume impossible. C'est aussi dans le Royaume impossible qui est conseillé, mais ça date d'il y a 30 ans. C'est pour ça que je ne fais que revenir sur le lieu de mes crimes.
Je voulais juste une précision sur la civilisation judéo-chrétienne, parce que je vois que se réclamer de la civilisation judéo-chrétienne est tout au long de l'histoire une grande persécution des Juifs en Europe.
Oui, mais ça, c'est une
Quel est le rapport entre les deux ?
C'est une rétroaction. Si vous aviez dit aux pères fondateurs de la Troisième République, voire encore à ceux de l'entre-deux-guerres, qu'ils étaient judéo-chrétiens, ils se seraient étranglés. Édouard Herriot, il dit, mais non, moi je descends d'Athènes. Je suis l'héritier de Démosthène, pas des prophètes. La notion judéo-chrétienne est une notion récente que l'on implique dans un but plus ou moins idéologique à des périodes antérieures. Alors, historiquement parlant, la notion de judéo-chrétienne est d'abord une version négative. C'est ce que j'ai dit, ce sont les penseurs allemands qui considèrent que le christianisme et donc le judaïsme sont des éléments étrangers à la culture allemande qu'il faut rejeter. Et donc, c'est la première phase du terme judéo-chrétien. Ensuite, la notion de judéo-christianisme, pas de la notion antique, mais ça, je reviendrai tout à l'heure, pour l'Antiquité. Le second point, c'est la réaction théologique à la Seconde Guerre mondiale et à la persécution des Juifs. Alors, en catholicisme, ça vient par exemple de Pie XI, quand il affirme fondamentalement en 1938 que Jésus était juif. Il introduit dans l'Église l'idée qu'il faut supprimer l'hostilité, l'antisémitisme catholique. Alors, ça ira donc de 1938, Jésus est juif, jusqu'à Nostra Aetate, à Vatican II, qui, justement, cesseront de considérer les Juifs comme les ennemis du christianisme, enfin, du catholicisme, et donc de le réintégrer théologiquement. Mais ça conduira ensuite à une véritable théologie catholique de la Shoah qui posera d'autres problèmes, comme on l'a vu par exemple dans l'affaire du Carmel d'Auschwitz, puisque les Juifs trouvent que finalement il y aura une volonté catholique de s'emparer de leurs victimes à travers une théologie judéo-chrétienne en un sens. Là, vous avez du côté protestant la même chose, comme des théologiens protestants américains comme Rudolf Niebuhr qui ont été ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, les maîtres à penser des nouvelles générations américaines protestantes. Et c'est aussi le discours de la guerre froide, puisque vous avez un retour de religion offensif en Amérique à partir des années 50 comme arme de combat contre le communisme athée. In God we trust, ça date des années 50, sur les billets de banque américains. Le président Eisenhower, bon, qui était issu d'une famille protestante, qui était certainement un lecteur de la Bible, n'a été baptisé qu'au moment de son accession à la présidence des États-Unis. Ce qui paraît surprenant aujourd'hui quand on pense à ce qu'on voit du protestantisme américain. Donc, si vous voulez, le discours judéo-chrétien a été à la fois la volonté d'abolir l'antisémitisme dans les pays de tradition chrétienne occidentale et en même temps une arme de combat face au communisme athée dans les rangs de la guerre froide. Et puis ensuite, il s'est infléchi récemment pour devenir un acte d'hostilité à l'islam. Mais c'est une inflexion qui est récente. Récente, elle date des 30 dernières années, à peu près. Mais du coup, on le reçoit en claquarrière, puisque tout communique hein, dans l'œcumène. Je veux dire, quand Ben Laden tape sur les Juifs et les croisés, il ne fait que renvoyer l'accusation, enfin l'affirmation judéo-chrétienne. Et donc, ce sont les éléments du débat, en quelque sorte. Mais encore une fois, c'est des choses tout à fait récentes. Sous la Troisième République, ça aurait été impensable de dire que la France est de tradition judéo-chrétienne. La France était l'héritière d'Athènes et de Rome. Et ce que l'on a aussi dans l'affirmation judéo-chrétienne, c'est l'oubli, justement, du renvoi à l'Antiquité classique et au sévisme gréco-romain. Même si, en effet, bon, quand les Français venaient en Algérie, ils disaient « on est les héritiers de Rome, donc on revient vous civiliser ». Mais ça, c'est autre chose. Voilà, donc pour essayer d'aborder cette notion, mais c'est une notion extrêmement récente, enfin elle a un peu plus d'un siècle d'histoire si on prend la version allemande de départ, mais le sens contemporain, c'est le sens qui s'est construit donc à la fois pour supprimer l'antisémitisme dans les pays chrétiens, protestants ou catholiques, chez les orthodoxes ils sont de toute façon antisémites, il n'y a pas de problème, et ensuite comme arme de combat de la guerre froide. Voilà, bon, je crois que vous avez le temps pour vous préparer à faire la sieste cet après-midi durant mon cours.